Chapitre 57. Sous les derniers rayons du soleil couchant, une vieille femme répandait des cendres sur les marches glacées du grand escalier de marbre. Callan la dépassa, soulagé que la servante ne lève pas les yeux. Car malgré ses vêtements grossiers, son manteau de fourrure, son sac à dos et son arc, elle aurait sûrement reconnu la mère inquisitrice enfin de retour en Aïdindril. Callan n'était pas d'humeur à supporter des festivités. Malgré son épuisement, avant de gagner le palais, elle était passée à la forteresse du sorcier, bâtie à flanc de montagne. Les lieux étaient hélas déserts. En dépit des boucliers magiques, l'inquisitrice avait pu y entrer, mais elle n'avait vu personne. Zed n'était pas là. La forteresse restait dans l'état où elle l'avait connue des mois plus tôt, avant de partir à la recherche du grand sorcier. Callan l'avait trouvée, contribuant ainsi à la défaite de Darkenral. À présent, elle avait de nouveau besoin du vieux sage. Le voyage jusqu'en Aïdindril avait été plus long et difficile que prévu. D'abord ralenti par des tempêtes, l'inquisitrice et son escorte avaient dû faire d'interminables détours à cause des cols obstrués par la neige. Près d'un mois d'avanie et de difficultés pour arriver enfin au but et découvrir l'absence de Zed. Pour gagner le palais, Callan avait emprunté un dédale de ruelles afin d'éviter l'avenue des rois où se dressaient les diverses ambassades des pays membres du conseil. Les rois et les reines y demeurant lorsqu'ils venaient en Aïdindril, ces ambassades étaient en réalité de somptueux châteaux. Mais aucune n'égalait la splendeur du palais des inquisitrices. Chamdalen avait choisi de camper dans la forêt. Même s'il ne l'aurait reconnu pour rien au monde, la taille de la ville et l'importance de sa population le mettaient mal à l'aise. Callan ne pouvait pas l'en blâmer. Après la solitude majestueuse des montagnes, elle se sentait perdue et vulnérable entre les murs de la cité où elle avait pourtant grandi. Un sentiment de claustration qu'elle n'avait jamais connu à ce point. Sa mission accomplie, l'homme d'Adobe avait hâte de rentrer chez lui. Consciente qu'il avait besoin de repos, Callan lui avait demandé de rester jusqu'au matin et de ne pas partir sans lui dire au revoir. Elle avait chargé Orsk de lui tenir compagnie. À la longue, la présence du colosse borgne devenait pesante, un peu comme si elle avait eu sans cesse un chien collé à ses basques, un bon chien certes, mais ô combien envahissant. Qu'allait-elle faire de lui maintenant qu'elle ne risquait plus rien, rendue à la sécurité de son palais? Une bouffée d'air chaud fouetta le visage de l'inquisitrice quand elle ouvrit la porte des cuisines. Entendant grincer les gonds, une femme mince au tablier blanc immaculé se retourna comme une furie.
Que viens-tu faire ici, mendiante ?
Beugla-t-elle.
Va-t'en immédiatement ou je fais appeler la garde.
Callan abaissa sa capuche et sourit quand la harpie cria de surprise.
Maîtresse Anderholt, je suis si contente de vous revoir.
Mère inquisitrice !
La femme tomba à genoux, les mains jointes.
Pardonnez-moi, par pitié, je ne vous avais pas reconnue. « Les esprits du bien en soient loués, vous êtes enfin de retour !»
Callan fit signe à sa vieille amie de se relever.
« Vous m'avez tellement manqué, maîtresse Anderholt !»
Elle ouvrit les bras et la terreur des marmitons s'y précipita.
« Mon enfant, que je suis contente de vous retrouver. Nous ne savions pas où vous étiez et j'avais peur de ne plus jamais vous revoir. »
« Ces derniers temps n'ont pas été faciles, maîtresse Anderholt. Mais me voilà revenu au bercail. »
« Venez !»
dit l'intendante en se dégageant.
« Un peu de soupe vous fera un bien fou. J'en ai au chaud. Si les têtes de linotte qui se prennent pour des cuisiniers ne l'ont pas massacré en ajoutant trop de poivre. »
Ayant entendu la remarque, les maîtres queues et les assistants baissèrent la tête se concentrant sur leur casserole.
« Je n'ai pas le temps de manger !» soupira Callan.
« Mon enfant, j'ai des choses importantes à vous dire. »
« Je sais. Moi aussi, j'en ai long à raconter. » Mais je dois voir le conseil au plus vite. Tant pis si je ne peux pas me reposer tout de suite. Nous parlerons demain.
Bien sûr. Allez voir le conseil, puis passez une bonne nuit.
Callan prit le chemin le plus court à travers la grande salle réservée aux cérémonies et aux fêtes. Pour lui enseigner la tactique militaire, son père disposait souvent des milliers de noix et de glands, les armées en lice, sur l'immense sol de marbre. La salle du conseil se trouvait au bout d'un long couloir à colonnades noires. Avant de l'atteindre, ont dépassé un petit panthéon à deux niveaux consacré à la mémoire des fondatrices de l'ordre des inquisitrices. Placés entre sept immenses piliers de marbre, leurs portraits, deux fois plus grands que nature, avaient toujours impressionné Callan. Face à eux, elle se sentait toute petite, comme si une question indignée allait sortir de leur bouche pourtant à jamais muette.
« De quel droit, Callan Amnel, te prétends-tu aujourd'hui la mère inquisitrice ?»
Connaître l'histoire de ces héroïnes ne faisait rien pour assurer la jeune femme sur la légitimité de sa position. Elle poussa les portes en chaîne de la salle du conseil et entra. Au fond de l'immense salle couronnée par un dôme imposant, une fresque nichée sous la voûte principale honorait la glorieuse mémoire de Magda Cyrus, la première mère inquisitrice. Elle était représentée avec son sorcier, Merit, qui avait sacrifié sa vie pour la protéger. Unis à jamais par le talent d'un peintre, ils avaient vu défiler sous leurs yeux éternellement ouverts toutes les inquisitrices qui s'étaient assises sur le prime fauteuil et tous les successeurs de Merit. La noble assemblée se réunissait toujours sous leurs regards, les sièges des conseillers disposés autour de celui de la mère inquisitrice. Malgré l'heure tardive, une bonne moitié des fauteuils étaient occupés, et quelqu'un avait osé prendre place sur le prime fauteuil. S'approprier ce siège pour un conseiller était une offense capitale et une déclaration de guerre jetée à la face de la mère inquisitrice. Tous les hommes se turent et tournèrent la tête pour regarder Callan approcher. Le prince Fyron de Kelton ne fit pas mine de libérer le prime fauteuil. À vrai dire, il ne retira même pas ses pieds du lutrin. Les yeux rivés sur Callan, il continua d'écouter ce que lui murmurait à l'oreille un homme à la barbe et aux cheveux noirs légèrement striés de gris. Remarquant sa longue tunique unie, l'inquisitrice trouva étrange qu'un assistant du prince soit vêtu comme un sorcier.
« Mère inquisitrice !»
s'écria soudain Fyron. Avec une lenteur calculée, il retira ses pieds du lutrin et se leva.
« Quel plaisir de vous revoir !»
Pour la première fois de sa vie, Callan se tenait devant le conseil sans sorcier à ses côtés. Privé de défenseur, ce n'était pas le moment de se montrer timide ou vulnérable.
« Prince Fyron, si je vous revois sur mon siège, je vous tuerai. »«
Vous utiliserez votre pouvoir sur un conseiller ?»«
Ou je vous égorgerai avec mon couteau si ça s'impose ?»
L'homme à la tunique unie foudroya Callan de ses yeux noirs. Les autres conseillers blêmirent comme un seul homme.
« Mère inquisitrice,
fit Fyron,
je n'entendais pas vous offenser. Vous êtes absent depuis si longtemps que nous vous avons cru morte. Il n'y a plus l'ombre d'une inquisitrice au palais depuis près de 6 mois. »
Il se fendit d'une révérence peu convaincante.
« Inutile de vous énerver. Je vous rends votre siège de bonne grâce. »
« Il est très tard, »
dit Callan en balayant l'assemblée du regard.
« Le conseil se réunira en session plénière demain à la première heure. Aucune absence ne sera tolérée. Messieurs les conseillers, les contrées du milieu sont en guerre. »«
En guerre ?»
répéta Fyron, le front plissé.
« Sur l'ordre de qui ? Nous n'avons pas débattu d'un sujet aussi grave. »
« Sur l'ordre de la mère inquisitrice, prince. Soyez tous là demain matin. Pour l'heure, vous pouvez disposer. »
Sur ces mots, Callan se détourna et sortit de la salle. En longeant les couloirs du palais, elle ne reconnut aucune des sentinelles. Rien d'étonnant, hélas. Lors de la prise d'Aïdindril par les Darans, lui avait appris Zed, presque tous les braves de la garde nationale avaient péri les armes à la main. Ses visages familiers lui manquaient terriblement. Au cœur du palais des inquisitrices se nichait un gigantesque escalier à 8 branches, éclairé par la lumière naturelle qui filtrait du toit en verre 4 étages plus haut. À mi-hauteur, la grande structure était entourée par une série d'arches donnant sur des couloirs à colonnades. Sur chaque pilier des arches, un médaillon célébrait la mémoire d'un ancien dirigeant des différents royaumes de l'Alliance. Lors de ses voyages, Callan avait vu des châteaux qui seraient aisément entrés dans la salle qui contenait le grand escalier.
et plusieurs maisons auraient tenu aisément sur le palier central où se dressaient les statues de 8 mères inquisitrices. La construction de l'escalier et de la salle qui l'abritait avait demandé 40 ans de travail. Kelton s'était chargé du financement de l'opération, une juste punition pour avoir rechigné à se joindre au conseil et provoquer ainsi une guerre. Dans le même esprit, aucun souverain keltien, avait-on décidé, n'aurait jamais droit à un médaillon. Dédié au peuple des contrées du milieu, l'escalier ne devait pas chanter la gloire de celui qui l'avait érigé à son corps défendant. Aujourd'hui, Kelton était devenu un membre puissant et respecté des contrées du milieu. Il semblait stupide aux yeux de Callan de continuer à humilier une population à cause d'erreurs remontant à plusieurs siècles. Quand elle atteignit le palier central et s'engagea sur l'escalier secondaire qui conduisait à ses quartiers, l'inquisitrice vit qu'une phalange de domestiques l'attendait en haut des marches. Bien entendu, tous s'agenouillèrent dès qu'elle eut posé le regard sur eux. Un tableau quelque peu absurde. 30 personnes dans des livrées immaculées, prosternées devant une espèce de sauvageonne échevelée. À l'évidence, la nouvelle de son arrivée s'était répandue dans le palais à la vitesse du vent. Tout le monde, jusqu'au plus humble jardinier, devait être informé du retour de la mère inquisitrice.
« Relevez-vous, mes enfants !»
dit Callan lorsqu'elle eut atteint le palier. Les serviteurs obéirent et s'écartèrent pour lui laisser le passage.
Puis, ils montèrent à l'assaut. La mère inquisitrice voulait-elle prendre un bain, se faire masser ou voir sa manucure? Fallait-il convoquer sa coiffeuse? Désirait-elle rencontrer maintenant les émissaires ou voir un de ses assistants ou faire rédiger une lettre par un secrétaire?
Callan se tourna vers Bernadette, la maîtresse des servantes, et enraya ce flot de propositions assourdissantes.
« Bernadette, un bain me ferait très plaisir, rien d'autre, simplement un bon bain chaud. »
Deux femmes coururent s'en occuper.
« Mère inquisitrice ? »
demanda Bernadette, un œil critique sur l'accoutrement de Callan.
« Avez-vous besoin qu'on raccommode ou qu'on lave vos vêtements ?»«
Je vous ai rapporté pas mal de linge sale, en effet. »
répondit Callan en pensant à sa jolie robe bleue et au reste de ses habits, pratiquement tous tachés de sang.
« Nous nous en occuperons, mère inquisitrice. Voulez-vous que je prépare votre robe blanche pour tout à l'heure ?»«
Tout à l'heure ?»«
Des messagers sont déjà en chemin pour l'avenue des rois, mère inquisitrice. Tout le monde entend vous accueillir dignement au palais. »
Callan grogna de dépit. Morte de fatigue, elle n'avait aucune envie de voir des hommes et des femmes qu'il lui faudrait remercier de leur gentillesse et complimenter sur leur tenue. Sans parler d'écouter les innombrables enquiquineurs qui viendraient se plaindre devant elle d'une quelconque injustice, 9 fois sur 10 à propos de la répartition des fonds. Non qu'ils aient envie de se remplir les poches, évidemment. Tous ces fâcheux prétendaient parler dans l'intérêt général.
Comme lorsque Callan était petite, Bernadette la gratifia d'un regard sévère dont le sens ne faisait pas mystère.
« Mon enfant, tu as des obligations et il n'est pas question de t'y soustraire. »
Mais son discours fut beaucoup plus polissé.
« Tout le monde ici est mort d'inquiétude pour vous, mère inquisitrice. Vous voir saine et sauve réjouira bien des cœurs. »
Callan ne fut pas dupe. Bernadette pensait qu'il serait bon pour la mère inquisitrice de montrer à ses gens qu'elle était vivante et occupait toujours son poste.
« Si vous me présentez les choses ainsi, maîtresse Bernadette, merci de m'avoir rappelé à quel point je suis aimée et respectée. »
La femme eut un sourire entendu et inclina la tête.
« De rien, mère inquisitrice.
Autrefois, quand j'oubliais quelque chose, vous me flanquiez une tape sur les fesses en guise de punition.
Vous êtes bien trop grande et intelligente pour ça à présent. » « Mère inquisitrice, avez-vous ramené quelques-unes de vos collègues, ou vont-elles revenir bientôt ?»«
Désolé, mon ami, je pensais que vous le saviez. Elles sont toutes mortes. Oui, je suis la dernière survivante. »«
Puissent les esprits du bien veiller sur elles ?»
souffla Bernadette, les larmes aux yeux.
« Pourquoi commencerait-il maintenant ?»
lâcha Callan.
« Ils n'ont pas daigné sauver Dénée le jour où un quatuor s'est acharné sur elles. »
Comme Callan s'y attendait, un bon feu crépitait dans les cheminées de ces quartiers. Il devait en avoir été ainsi tous les jours depuis le début de l'hiver, au cas où elle serait revenue à l'improviste. Sur une table, un plateau d'argent était lesté d'un bol de soupe aux épices, d'une miche de pain frais et d'une théière fumante. Maîtresse Anderholt connaissait bien ses goûts. La soupe,
la fit penser à Richard. Chacun en avait mitonné pour l'autre lorsqu'ils étaient encore ensemble.
Dès qu'elle se fut débarrassée du sac et de l'arc, l'inquisitrice entra dans la pièce suivante. Debout devant le grand lit, elle se souvint qu'elle aurait dû y dormir avec Richard dès leur arrivée en Aydindril, en principe le lendemain de leur mariage. Comme elle avait été heureuse à l'idée de retourner chez elle avec un mari. Et maintenant, que lui restait-il? Les larmes aux yeux, elle alla ouvrir la fenêtre et contempla dans le lointain la silhouette noire de la forteresse du sorcier.
« Zed, où êtes-vous donc? J'ai besoin de vous. »
L'homme se réveilla en sursaut parce qu'il venait de se cogner la tête contre quelque chose. Ouvrant les yeux, il découvrit en face de lui une vieille femme aux cheveux poivre et sel, assise sur la banquette d'un coche comme lui. Le véhicule roulait à un train d'enfer, les ballottant de tous côtés. La femme le regardait. Pourtant, ses yeux étaient entièrement blancs.
« Qui êtes-vous ? »
demanda-t-il.
« Et vous ? » ?»«
J'ai posé la question le premier. »«
J'ignore qui je suis. Et vous ? » ?»«
Mon nom est... Désolé, mais ça semble m'échapper aussi. Mon visage vous rappelle quelque chose ? » ?»«
Je n'en sais rien. Navré, mais je suis aveugle. » »«
Aveugle, vraiment ? Pas de chance, ça. »
Le vieil homme se massa le crâne là où il avait percuté la paroi du coche. Baissant les yeux, il constata qu'il portait des vêtements de qualité. Une tunique marron ornée aux manches de fils d'argent et d'or. Au moins, pensa-t-il, il ne devait pas manquer d'argent. Avisant une canne noire sur le plancher du véhicule, il la ramassa, admira sa jolie poignée et frappa plusieurs coups au plafond, à l'endroit où devait être assis le cocher.
« Quel est ce bruit ? »
s'écria sa compagne.
« Oh, pardon, j'essaie d'attirer l'attention du cocher. »
L'homme devait avoir entendu. Le coche s'immobilisa et grinça lorsque quelqu'un en descendit. Quand la portière s'ouvrit sur un géant à l'air morose, le vieil homme recula, sa canne brandie.
« Qui êtes-vous ? »
cria-t-il.
« Moi, le roi des crétins. Mais mes amis m'appellent Ahern. »
« Ahern, que fichez-vous avec nous ? Vous nous avez enlevés dans l'espoir d'obtenir une rançon ?»«
C'est plutôt le contraire, »
grogna Ahern.
« Que voulez-vous dire ? Combien de temps avons-nous dormi et qui sommes-nous ? »
Ahern leva les yeux au ciel, l'air accablé.
« Vénéré esprit du bien, comment me suis-je fourré dans ce pétrin ? »
Il s'ébroua.
« Vous dormez depuis hier, toute la nuit. » Plus la journée d'aujourd'hui. Et vous vous appelez Ruben Ribnik.
Ruben, j'aime ce prénom.
Et moi, qui suis-je ?
Demanda la femme.
Eldar Ribnik.
Nous portons le même nom ?
S'étonna Ruben.
Serions-nous parents ?
Oui et non. Vous êtes mari et femme. C'est un lien familial, en somme.
« Ahern,
fit le vieil homme,
je crois que nous méritons quelques explications. »«
Ça, je m'y attendais. Vous êtes Ruben et elle, Elda, mais ce ne sont pas vos vrais noms. Vous m'avez dit qu'il valait mieux pour le moment que je ne vous les révèle pas. »«
Vous nous avez enlevés en nous frappant sur la tête, ce qui nous a fait perdre la mémoire. »«
Non, calmez-vous un peu et je vous expliquerai. »«
Dépêchez-vous avant que je vous assomme avec ma canne. »
« Ça ne valait pas le coup, »
marmonna Ahern.
« Même pour de l'or, j'aurais dû rester loin de tout ça. »
Il entra dans le coche, s'assit à côté de Ruben et ferma la portière pour barrer le chemin aux flocons de neige tourbillonnant.
« Ne vous gênez pas, »
marmonna Ruben.
« Faites comme chez vous. »«
Bon, à présent, vous allez m'écouter, »
grogna Ahern, ignorant la remarque acerbe.
« Vous étiez malades tous les deux. » Et vous m'avez chargé de vous conduire chez trois femmes. »
Il baissa le ton.
« Des magiciennes. »
« Pas étonnant que nous ayons la tête en capilotade, »
couina Ruben.
Vous nous avez conduits chez des magiciennes et elles nous ont envoûtés. »
Du calme, vieux hibou. Ruben, vous êtes un sorcier. Et vous, Elda, une magicienne. »
Moi, un sorcier ?
S'écria Ruben.
Impossible, sinon vous seriez déjà transformé en crapaud.
Vous avez perdu vos pouvoirs,
soupira Ahern.
M'admettons,
fit Ruben en bombant le torse.
Étais-je un sorcier doué ?
Assez pour me plaquer les doigts sur les tempes et implanter dans mon cerveau l'idée stupide de vous aider. Il paraît selon vous que les sorciers doivent parfois utiliser les gens pour accomplir ce qui doit l'être. Le fardeau de la profession, à vous en croire. Mais toujours selon vous, je vous aurais secouru de toute façon, donc vous avez simplement stimulé ma bonté naturelle, histoire que je me décide plus vite. Tout ce boniment plus quelques pièces supplémentaires, et me voilà dans la mouise jusqu'au cou. Moi qui ne supporte pas ces foutus sorciers et leur magie.
« Je suis une magicienne ?»
intervint Elda.
« Aveugle ?»«
Eh bien, pas exactement, madame. Vos yeux étaient morts, mais avec votre don, vous pouviez voir mieux que moi. »«
Alors pourquoi suis-je aveugle à présent ?»«
Vous et votre mari aviez une maladie, une infection de magie maléfique ou un truc comme ça. » Les trois magiciennes ont accepté de vous aider, mais pour vous sauver, elles ont dû vous administrer une décoction qui a chassé votre don. Comme j'ai attendu dehors, je n'en sais pas plus. Mais c'est ce que vous m'avez raconté avant d'aller voir les femmes pour la dernière fois.
« Vous ne nous vendriez pas des salades par hasard ?»
grogna Ruben.
« La maladie se nourrissait de votre bonne magie, »
continua Ahern, méprisant la remarque.
« Je n'en sais pas plus, et je refuse d'en apprendre davantage, mais je vous répète mot pour mot ce que vous m'avez dit avant de perdre la boule. »«
Donc, nous n'avons plus de pouvoir. » »«
D'après ce que j'ai compris, on ne se débarrasse pas vraiment de la magie. Ces femmes vous ont fait oublier votre passé pour que vous soyez incapable de localiser votre don. Du coup, le pouvoir maléfique ne peut pas non plus. Vous pigez ? Parce que moi, ça me donne mal à la tête, vos histoires. » Mais en gros, vous ne savez plus qui vous êtes, vos pouvoirs ont fichu le camp, et Elda n'y voit plus.
Pourquoi ces magiciennes ont-elles accepté de nous soigner?
À cause d'Elda. Il paraît qu'elle est une légende parmi les magiciennes de Nicobarez. Rapport à un truc qu'elle a fait lorsqu'elle y vivait dans sa jeunesse.
Ce doit être vrai,
grogna Ruben en dévisageant le cocher.
« Elda, c'est sûrement vrai. Qui inventerait une histoire aussi absurde? Qu'en penses-tu ?»«
La même chose que toi. Il dit la vérité. »«
Bravo !»
s'exclama Ahern.
« Maintenant, passons à la partie que vous n'allez pas aimer. »«
Quand récupérerons-nous nos pouvoirs et nos souvenirs ?»«
C'est ça que vous allez détester. » « Les magiciennes doutent que vous les retrouveriez un jour. Vous pigez ?»
Un long silence régna dans le coche.
« Et pourquoi aurions-nous accepté de courir un tel risque ?»
demanda enfin Ruben.
« Parce que vous n'aviez pas le choix. Vous étiez très malade, et Elda sans traitement serait déjà morte. Vous, il vous resterait à présent un jour ou deux. C'était la seule solution. »
« Dans ce cas... » fit Ruben. « Nous avons pris la décision qui s'imposait. Si nos souvenirs ne nous reviennent pas, nous recommencerons nos vies sous l'identité de Ruben et Elda.
C'est un peu plus compliqué que ça. Avant votre amnésie, vous m'avez dit que vous devriez impérativement recouvrer vos pouvoirs, pour empêcher je ne sais quelle catastrophe de détruire le monde, des âneries de sorciers d'après moi. Mais vous sembliez y croire dur comme fer, et selon les magiciennes, avez-vous ajouté... « Si la mauvaise magie vous quittait pour de bon, vous auriez une chance de redevenir vous-même. »«
De quelle catastrophe s'agissait-il? Et que devais-je faire ?»«
Vous ne me l'avez pas précisé, sous prétexte que je n'aurais rien compris. »«
Et que devons-nous faire pour récupérer nos pouvoirs ?»«
Pour avoir une possibilité de les récupérer, »
souligna Ahern.
« Les magiciennes ne vous donnaient pas beaucoup de chances d'y parvenir. » Pour que ça arrive, il faudra un choc émotionnel. très fort.
Quel genre de choc?
Une colère noire, par exemple. Si vous êtes vraiment furieux.
Allez-vous me tabasser pour me mettre en rogne?
Non. Un truc aussi simple ne marcherait pas, m'avez-vous dit. Il faudrait un choc émotionnel. Mais vous ne saviez pas lequel, ni comment le provoquer. Si ça marche, la colère sera dévastatrice à cause de la magie. Il paraît que vous n'avez pas le choix parce que vous mourrez si vous ne faites rien.
Ouais, fit Ruben dubitatif. Au fait, où nous conduit ce coche?
En Aydindril.
Aydindril? Je n'ai jamais entendu parler de ce bled. C'est loin.
Aydindril est le foyer des inquisitrices. De l'autre côté des monts Rang Shada. Il nous faudra encore des semaines de voyage, peut-être un mois. Nous devrions arriver autour du solstice d'hiver, la plus longue nuit de l'année.
Un sacré voyage, en effet,
marmonna Ruben.
Pourquoi voulais-je aller là-bas?
Pour entrer dans la forteresse du sorcier. Il faut du pouvoir pour y accéder, et comme vous n'en avez pas, vous m'avez révélé une astuce. J'ai cru comprendre que vous étiez un sacré garnement, qui avait découvert un moyen d'entrer et de sortir en douce de la forteresse.
Et j'ai dit que toute cette affaire était urgente?
Oui.
Alors, que fichons-nous ici à bavarder?
Après une soirée passée à congratuler des gens, Callan n'eut aucun mal à sourire à la femme qui se tenait devant elle. Vêtue d'une somptueuse robe bleu marine, cette courtisane assurait avec emphase que tout le monde au palais s'était rongé les sangs pendant l'absence de la mère inquisitrice. Son hypocrisie, hélas, était aussi visible que celle des autres. Callan avait passé une bonne partie de sa vie à entendre les discours faussement généreux et amicaux d'êtres rongés par la cupidité. Et ça la rendait malade. Elle aurait donné cher pour qu'un seul de ces beaux parleurs jette enfin le masque et dise à haute voix combien il la haïssait, car tous ces nobles sans foi ni loi lui en voulaient de les empêcher de saigner à blanc les contrées du milieu et leur population. Enfin, pas tous, se corrigea-t-elle. Il pouvait y avoir des exceptions. En écoutant d'une oreille distraite, l'inquisitrice se demanda comment aurait réagi cette digne épouse d'ambassadeur bardée de bijoux en la voyant nue sur un cheval, peinte en blanc et couverte de sang. Un évanouissement fort à propos, sans nul doute. Quand la femme marqua enfin une pause pour reprendre son souffle, Callan la remercia de sa sollicitude et s'éloigna à grands pas. Il fallait qu'elle mette un terme à cette soirée. Le lendemain très tôt, une réunion cruciale du conseil l'attendait. Captant son reflet dans un miroir, la jeune femme eut l'impression qu'elle venait de se réveiller d'un très long rêve pour découvrir qu'elle n'avait pas changé. La mère inquisitrice vêtue de sa robe blanche au palais d'Aydindril. Une illusion. La femme qu'elle était aujourd'hui n'avait plus rien à voir avec celle de jadis, comme si elle avait vieilli de 100 ans en quelques mois. Alors qu'elle atteignait la sortie, une autre dame somptueusement vêtue l'accosta. Callan plissa aussitôt le front, frappé par un détail étrange. Les cheveux de cette courtisane étaient bien trop courts pour quelqu'un qui arborait une tenue pareille et des bijoux aussi coûteux.
« Mère inquisitrice, » dit l'inconnue en lui barrant le passage, « je dois vous parler, c'est très urgent. »«
Désolé, mais j'ai peur de ne pas vous connaître. »«
Vous ne m'avez jamais vu en effet, pourtant nous avons un ami en commun. »
En parlant, la courtisane ne cessait de sonder la foule. Apercevant au loin une vieille femme à l'air revêche qui regardait dans leur direction, elle lui tourna vivement le dos.
« Mère inquisitrice, êtes-vous venue seule en Aydindril, ou avez-vous amené quelqu'un ?»«
Un ami, Chandalen, m'a accompagné, mais il a préféré passer la nuit dans la forêt.
Pourquoi cette question ?»« Ce n'était pas le nom que j'espérais entendre. Mère inquisitrice, vous devez... »
La voix de l'inconnu mourut et elle écarquilla les yeux comme pétrifiée sur place.
« Que se passe-t-il ? » demanda Callan.
On eût dit que la femme venait de voir des fantômes.
« Vous... vous... »
Blanche comme un linge, l'inconnu recula d'un pas. La soudaine pâleur de ses épaules, sous le tissu noir transparent de sa robe, lui conféra l'allure d'un spectre en tenue de soirée. Terrorisée, elle essaya en vain de continuer à parler. Ses yeux se révulsèrent,
Callan tendit un bras. Trop tard, sa mystérieuse interlocutrice s'écroula sur le sol. Callan et d'autres convives se penchèrent sur elle. Dans la foule qui s'était formée, attirée par l'incident, des murmures coururent au sujet d'un excès de boisson plutôt inconvenant.
« J'ai bras !»
s'écria la vieille femme en se frayant un chemin à grands coups de coude parmi les curieux.
« Je savais bien que c'était elle !»
Callan releva les yeux.
« Vous connaissez cette femme ? Tout d'abord, qui êtes-vous »
S'avisant qu'elle parlait à la mère inquisitrice, la courtisane s'inclina bien bas.
« Je suis Damordite, condadite de Dakidvitch, mère inquisitrice. Vous rencontrer enfin est un grand honneur. J'attendais impatiemment de vous dire... »«
Qui est cette femme ?»
coupa Callan.
« Vous le savez ?»«
Si je le sais, comment ? C'est ma servante, Djebra Bevinvier. Cette fichue paresseuse recevra une sacrée correction. »«
Une servante, elle ?»
lança un homme.
« Voilà qui m'étonnerait. » « J'ai dîné avec elle et je peux vous assurer que c'est une authentique dame. »«
Mais elle s'est fichue de vous !»
Queena ordite.
« Dans ce cas, »
railla l'homme,
« vous devez la payer grassement. Elle fréquente les meilleures auberges et paye tout en pièces d'or. »
Dame ordite gratifia son contradicteur d'un sourire méprisant et tira un garde par sa manche.
« Toi, conduis cette garce dans mes quartiers à l'ambassade de Kelton. Je saurai le fin mot de cette histoire. »
Callan se releva et foudroya la vieille femme du regard.
« Il n'est pas question de vous confier cette malheureuse, sauf si vous prétendez donner des leçons à la mère inquisitrice dans son palais. »
Dame ordite marmonna des excuses. Sans la quitter des yeux, Callan claqua des doigts à l'intention de plusieurs gardes qui accoururent aussitôt.
« Conduisez Dame Djebra dans une chambre d'amis. Qu'une servante lui apporte du thé au gingembre, des serviettes imbibées d'eau froide pour sa tête et tout ce qu'elle voudra d'autre. » J'ordonne que personne ne la dérange, y compris Dame ordite. Je me retire pour la nuit, et j'entends aussi qu'on me laisse en paix. Demain, après la séance du conseil, qu'on fasse venir Dame Djebra dans mes quartiers. »
Les gardes saluèrent et soulevèrent délicatement Djebra. Lorsque Callan arriva devant sa chambre, la vue de deux soldats qu'elle tient en faction devant la porte l'attira de ses sombres réflexions. Dès que les gardes l'aperçurent, l'un d'eux tapa nonchalamment à la porte avec l'embout de sa lance. Il y avait quelqu'un chez elle. Callan foudroya du regard les deux hommes qui ne bronchèrent pas, puis entra. Personne dans la première pièce. Passant dans la chambre, elle se pétrifia en apercevant le prince Fyren, debout sur son lit où il urinait sans complexe. Quand il eut vidé sa vessie, il se retourna en finissant de refermer sa braguette.
« Que faites-vous donc ? »
souffla Callan. Le prince sauta à terre et se dirigea vers la sortie.
« J'étais venu montrer à la mère inquisitrice à quel point nous sommes ravis qu'elle soit de retour. Bonne nuit, très chère. »
Dès qu'il fut parti, Callan tira 6 fois sur le cordon de sa sonnette. Retournant dans le couloir, elle vit arriver 6 servantes à bout de souffle.
« Vous désirez quelque chose, mère inquisitrice ?»«
Sortez mon lit et ma literie dans la cour et brûlez-les. »«
Mère inquisitrice ?»«
Sortez mon lit et ma literie de la chambre et incendiez-les. »« Il vous faut un dessin ?»«
Non, mère inquisitrice. »« Tout de suite, vous voulez dire ?»«
Si j'avais désiré que vous le fassiez demain, je ne vous aurais pas appelé ce soir. »
Callan atteignit les marches qui dominaient l'entrée principale à temps pour voir Fyren rejoindre l'homme en tunique unie qui l'attendait là. Un long moment, ses yeux noirs croisèrent le fer avec les siens.
« Garde !»
cria l'inquisitrice. Des soldats coururent le nez en l'air.
« L'immunité diplomatique est levée. Si je vois ce port de Keltien ou un de ces hommes rôder dans le palais avant la séance du conseil demain matin... « Je vous écorcherai tous vifs après avoir tué l'insolent !»
Les hommes la saluèrent un peu blêmes. Du coin de l'œil, Callan aperçut Dame ordite qui ne manquait pas une miette du spectacle.
« Dame ordite, j'ai cru comprendre que vous résidiez à l'ambassade de Kelton. Veuillez y retourner sur le champ. »
Se fichant comme d'une guigne des salutations polies de la vieille femme, l'inquisitrice tourna les talons et fit signe à quelques gardes de la suivre. Revenue devant ses appartements,
Elle attendit que tout se soit aligné dans le couloir.
Si un intrus pénètre dans ma chambre cette nuit, il vaudrait mieux pour vous qu'il ait marché sur vos cadavres. Compris ?
Tous hochèrent la tête et saluèrent. Callan entra, mit le manteau de fourrure sur ses épaules et sortit sur le balcon pour contempler un triste spectacle. Elle aurait voulu fuir à toutes jambes, mais c'était impossible. Comme toutes les mères inquisitrices, il lui fallait penser avant tout à son devoir, protéger les contrées du milieu. Seule. Des larmes aux yeux, elle regarda brûler le splendide lit qu'elle avait promis à Richard.